Et nous enchaînons tout de suite avec notre ami Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Commençons par un gros dossier qui secoue encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on a l'impression que les Russes sont bannis de toute compétition internationale, sauf qu'entre la décision de l'Agence mondiale antidopage et l'application des mesures, il y a une marge des fois. Est-ce que je me trompe de penser ça, Philippe?
Oui, il y a une marge, puis il y a potentiellement un appel aussi qui peut être logé par les Russes. En fait, ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est que la commission exécutive de l'Agence mondiale antidopage a entériné la recommandation de son comité d'enquête, recommandation qui a été dévoilée à la fin du mois dernier. La recommandation, c'est de suspendre les Russes pour les 4 prochaines années de toute compétition internationale. Ça va plus loin que ça, Mario. C'est non seulement suspendre les Russes, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas participer aux Jeux olympiques et à tous les championnats internationaux, les championnats mondiaux. En tout cas, très certainement pas sous les couleurs de la Russie. Et sans leur hymne national, s'ils gagnent les médailles, sans leur drapeau. Mais également, la Russie ne pourrait pas soumettre sa candidature à l'organisation de certains événements sportifs, ne pas présenter. Autrement dit, il faudrait trouver d'autres endroits pour ceux qui sont déjà prévus en Russie au cours des 4 prochaines années. Les responsables russes seraient interdits de siège au sein de différents conseils d'administration des instances sportives internationales. Bref, ça ratisse très large, cette mesure-là. Mais maintenant, les Russes, eux, qui crient au complot anti-russe, peuvent en appeler. Ils ont 21 jours pour loger un appel au tribunal arbitral du sport et sans nul doute, ils le feront.
Et ils le feront, puis j'imagine que ça va parler fort en coulisses, parce que, bon, il y a toujours la possibilité pour les athlètes qu'on dit propre de participer à des compétitions sous un drapeau neutre.
Oui, en autant, et c'est eux, et c'est important de le mentionner, c'est eux qui auront le fardeau de la preuve, cependant.
Alors, ils sont tous considérés comme potentiellement dopés,
non? Écoute, je pense qu'on peut à peu près dire ça. Ça va être à eux de démontrer que leur nom n'a jamais été mêlé à une histoire de dopage, qu'il n'y a pas eu de soupçon, et en fait, même que leur nom, si j'ai bien compris, n'était pas dans la base de données du laboratoire de Moscou. Et là, je vais te parler du laboratoire de Moscou parce que toute l'histoire qui s'est produite aujourd'hui trouve son origine de là. Alors, il y a eu le scandale de dopage des Jeux de Sochi. Là, finalement, on le sait, il y a eu des sanctions, il y a eu des athlètes qui n'ont pas pu aller aux Jeux olympiques de Rio, des athlètes russes qui n'ont pas pu aller aux Jeux olympiques de Sochi par la suite. Mais là, finalement, on a réintégré les Russes dans la famille olympique. Sauf que l'Agence mondiale antidopage a dit, il y a quand même une dernière condition que vous devez remplir, c'est que vous devez nous remettre toutes les données réunies sur vos athlètes, tous les tests de dopage qui ont été pris sur vos athlètes au cours des dernières années, données qui se retrouvent au laboratoire de Moscou. Alors, ils avaient jusqu'au 31 décembre dernier pour remettre ces données-là. Ils ne l'ont pas fait. Là, la chicane a pris, puis pas à peu près. Et finalement, c'est au mois de janvier, 3 semaines plus tard, qu'ils les ont finalement remis.
Mais là, ils ont-ils fait la même affaire que les documents qu'avec les tests d'urine à Sochi?
Ben, c'est ça. C'est que là, toute l'Agence mondiale antidopage a réussi à démontrer que les données avaient été falsifiées, que des tests probablement positifs de dopage avaient été rayés de la carte, des données éliminées. Et c'est à la suite de ça que là, l'Agence mondiale antidopage a dit non, là on peut pas endurer ça, on peut pas accepter ça. Alors la sanction de 4 ans, elle est pas due aux événements de Sochi en 2014 pour lesquels il y a déjà eu des sanctions, elle est due à ce dernier événement qui s'est produit il y a moins d'un an, c'est-à-dire le fait que les Russes n'ont pas remis en temps la base de données qui était au laboratoire de Moscou à l'Agence mondiale antidopage. Et on comprend aujourd'hui que s'ils ne l'ont pas remis en temps, c'est qu'ils ont trafiqué les données de façon à amoindrir leur responsabilité. Et c'est à la lumière de ce fait-là qu'on a décidé de les bannir pour 4 ans. C'est ça qui est arrivé. Donc, de là vient cette suspension de 4 ans.
Et on va attendre la suite pour voir de quoi il va retourner concrètement dans l'application des mesures. Et puisqu'on parle de dopage, une athlète à qui j'aurais donné le bon Dieu sans confession, Laurence Vincent Lapointe, qui, elle, témoignait aujourd'hui dans son cas à elle de dopage.
Oui, exactement, devant le panel antidopage de la Fédération de canoë-kayak, la Fédération internationale. Elle a témoigné à huis clos, selon le communiqué qui a été émis aujourd'hui pendant près de 3 heures. Donc, elle va essayer de prouver son innocence, à savoir si elle a comment ça se fait qu'il y a un produit dopant qui s'est retrouvé dans son urine. On sait qu'elle a subi un test, un contrôle antidopage positif en juillet dernier. Elle, sa thèse jusqu'à maintenant, c'est que c'est de la contamination croisée, c'est-à-dire que son supplément alimentaire aurait, pour une raison qui reste à expliquer, contenu un produit illégal. Alors, c'est la preuve qu'elle devait essayer et qu'elle devait essayer de faire aujourd'hui. Mm-hmm. Maintenant, la décision sera rendue dans un maximum de 30 jours parce que le panel antidopage a 30 jours pour prendre à délibérer les témoignages d'aujourd'hui, étudier la question et par la suite rendre sa décision. Alors donc, le cas de Laurence Vincent-Lapointe et sa perspective de participer ou non aux prochains Jeux olympiques d'été. C'est dès l'an prochain, c'est en 2020 à Tokyo. Ben, on va connaître ça d'ici un mois au maximum.
Pendant ce temps-là, je me permets une réflexion parce que j'écoutais des reportages là-dessus. Le pays où il y a le plus de cas de dopage, ce sont les États-Unis. Hein? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, Philippe?
Écoute, il y en a encore beaucoup de dopage, c'est clair. Je pense que ce qui a vraiment été la particularité en Russie, Mario, c'est le dopage institutionnalisé.
Exactement.
C'est un système qui a été mis sur pied pendant les Jeux de Sotchi pour vraiment faire en sorte que les athlètes du pays obtiennent le maximum de médailles. Alors, la différence quand même, elle est là.
Elle est importante. Tandis qu'aux États, on parle peut-être d'élan davantage individuel, comme peut-être ici au Canada, mais je ne me prononcerai pas davantage. On va garder du temps pour d'autres sujets. On savait que Bianca Andreescu allait être dure à déloger comme favorite pour hériter du titre d'athlète canadien ou canadienne par excellence de l'année. Elle hérite du trophée Lou Marsh. C'est un incontournable. La première fois que c'est décerné à un joueur ou une joueuse de tennis.
Quelle nouvelle fantastique, c'est sûr, comme tu le dis, qu'on s'y attendait. Là, c'était clair qu'elle était la grande favorite pour obtenir le Lou Marsh. Le Lou Marsh, faut le rappeler, c'est le plus grand trophée au Canada. C'est remis à l'athlète qui s'est le plus illustré pendant l'année, que ce soit un athlète masculin, un athlète féminin, peu importe le sport. Il y a plusieurs grands gagnants au fil du temps. Gaëtan Boucher, Carey Price, Kaylee Humphries. Michael Kingsbury l'a gagné aussi. En fait, il était le champion en titre. Alors là, ça va à Bianca Andreescu, mais je pense que pour le tennis, comme tu le mentionnais, c'est jamais arrivé auparavant qu'un joueur ou une joueuse de tennis canadien mérite cet honneur-là. Donc, ça consacre la montée fulgurante du tennis. Je pense qu'on le voit avec les résultats internationaux, avec Bianca Andreescu, avec les gosses qu'ils ont réussi à la Coupe Davis en Espagne, atteindre la finale contre l'Espagne en Espagne, se rendre aussi loin. Ils ont perdu la finale, mais quand même, la médaille d'argent, c'est pas rien avec Vacek Pospisil et Denis Chapovalov. Félix Auger-Aliassime a joué aussi le dernier jour. C'est vraiment un moment tellement important pour le tennis, comme une année qui est la consécration de tous les efforts qui ont été mis dans le tennis. Et je pense que l'effet d'entraînement auprès des jeunes, il y a des chiffres qui disent que déjà la pratique du tennis est en augmentation, mais je le sens, puis je pense que tu le sens toi aussi.
J'en ai parlé avec Louis ouais. Bonfiga, je ne voulais pas t'interrompre, continue ta pensée, mais je reviendrai là-dessus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que même, tu sais, toi là, qui es assis dans le siège d'animateurs, des amateurs de sport, je pense que tu réalises à quel point le tennis est immensément plus populaire aujourd'hui à Montréal que, disons, il y a 10 ans. Tu sais,
ça, j'ai pas étudié les codes d'écoute d'RDS et TVA, là, mais tu sais, le tennis, ça prend beaucoup d'heures d'antenne. Fait que c'est un produit fort intéressant pour les diffuseurs. Là. J'aime pas même mieux ça que voir du poker à télé là, entre toi et moi, là, puis ça se compare même pas. Mais je te l'étudie dans les corridors, Mané, que je disais, dans les sports... Outre les sports d'équipe qu'on couvre habituellement, là, le sport dont je me fais parler le plus souvent en dehors, dans les sports individuels, c'est le tennis.
Ouais.
Et je le constatais ici, là, dans des conversations modernes, à la maison, peu importe.
Moi, je sais, quand j'écris sur le tennis dans la presse, par exemple.
Ça provoque beaucoup de réactions.
Ouais, beaucoup de réactions, puis c'est lu, puis les gens aiment ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un intérêt. Les gens suivent tous les grands joueurs, les hommes, les femmes. Puis bien sûr, tu sais, la présence aussi de Québécois au plus haut rang, c'est quelque chose de formidable. Ah. Bon, tu sais, on peut évidemment critiquer Eugénie Bouchard, il en reste pas moins qu'elle a donné
certain ton. La voie. Et Raonic ont pavé la voie.
Tout à fait.
Louis Bonfiga le rappelle. Et si tu me permets, à la question que tu soulèves par rapport à la participation des jeunes, Louis Bonfiga nous dira tout à l'heure dans l'entrevue que j'ai enregistrée avec lui cet après-midi, que c'est là que réside peut-être, au niveau de la participation, un des plus grands défis de Tennis Canada.
Ouais.
Parce que il y a une vague. Tu sais, c'est sûr que d'avoir vu Bianca gagner, de voir Félix Auger-Aliassime, Chapovalov vivre des grands moments, puis tu sais, Vacek, Pospisil en Coupe Davis, c'est inspirant. Les jeunes veulent jouer au tennis. Maintenant, j'ai hâte de voir s'ils vont vraiment délaisser leurs appareils, puis pour vrai, là, puis s'ils vont vraiment envahir les courts de tennis. Mais s'ils le font, bien, on va manquer de courts de tennis, Philippe.
Bien, je pense qu'on en manque déjà l'hiver. C'est ça le grand défi pour le tennis
sûr.
Canadien, c'est de rendre ce sport-là accessible au plus grand nombre pendant l'hiver. Pendant l'été, c'est facile. Là, quand les terrains municipaux ouvrent là, à Montréal, l'offre est très très grande. Très grande. On peut jouer au tennis à je sais pas combien d'endroits, puis je pense que partout au Québec, il y a des terrains, mais c'est l'hiver le problème, et une installation de tennis intérieur, ça coûte cher. Louer un terrain, ça coûte cher. Alors, c'est le grand défi, puis je sais que Tennis Canada a ce projet-là de multiplier les petits centres de tennis intérieur partout au Canada, mais entre une volonté clairement exprimée et sa mise en œuvre, parce que la facture va être colossale, tu sais, il y a souvent un pas à franchir là qui ne se fait pas instantanément. Mais tu sais, c'est vraiment, pour moi, là, c'est un problème très important pour le tennis. Comment faire en sorte qu'on puisse pratiquer le tennis 12 mois par année relativement facilement? À l'heure actuelle, on peut le pratiquer quoi? 6 mois par année peut-être? Et ça, c'est un gros, gros frein, je pense, au développement du tennis chez nous.
Ouais, tennis et golf, je pense qu'on vit des problématiques semblables.
Ouais, puis le golf, ça serait encore pire parce que golf, tu peux pas faire de terrain intérieur.
Non. Quoi, il y en a pas qui ont déjà eu une idée farfelue pour réaménager l'intérieur du stade olympique, mais je pense pas qu'on pourrait faire un 3-4 trous. Non, peut-être quelque chose
pas,
on va, on va passer à une autre idée. Peut-être, puisqu'on a peut-être encore un petit peu de temps en conclusion. À moins que tu veuilles poursuivre sur le tennis, c'est très, très agréable.
Non. Juste, il y a un autre nom que je veux mentionner. Tu sais, on parle de Bianca Andreescu, puis on parle de Chapovalov, puis Félix Auger-Aliassime, puis Pospisil, qui ont eu des grandes années. Mais il faut pas oublier Sylvain Bruneau, qui a été exceptionnel comme entraîneur, a été nommé entraîneur de l'année au Canada. Il a fait un travail fantastique avec Bianca Andreescu. Mm. Tu sais, aujourd'hui, il est clairement reconnu comme un des meilleurs entraîneurs de tennis au monde. C'est pas rien quand on passe à ça.
Non.
Chapeau à Sylvain Bruneau, qui a eu beaucoup à dire dans le succès colossal de Bianca Andreescu.
Ouais, veux pas, on est bien fiers quand on a des notes comme ça. On a l'impression qu'on y a pas demandé, mais ça rejaillit un petit peu sur nous autres. En tout cas, on aime ça.
Ben, c'est sûr.
On aime ça un peu s'approprier les succès des notes. Il y a une association naturelle qui se fait, puis ça va être toute une année de défis. Un autre sujet qu'on va aborder avec Louis Bofigot tout à l'heure pour Sylvain Bruneau et Bianca Andreescu, parce que là, on va l'attendre, bien sûr.
Répéter, c'est autre chose, hein?
Oui, puis c'est sûr que c'est pas une équipe. Ben, c'est une équipe, eux, ensemble, puis des gens qui les entourent, mais c'est pas comme dans un sport collectif, là. C'est toi qui fais face à la musique tous les soir. Crise majeure évitée de justesse, on en a parlé ensemble dans notre balado sortie de zone qui est disponible sur la presse et sur le 98.5. Maintenant, trois autres matchs, c'est sûr que ça a été important de gagner sur la route vendredi, sinon ça aurait été une victoire et deux défaites, puis je pense qu'on sera encore dans une situation tendue, mais là, ça doit mieux travailler, Philippe.
Oui, ça travaille mieux, sauf que la pression revient vite, par exemple.
C'est sûr, pesant deux autres. Là.
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis là, cette semaine, théoriquement, c'est la semaine la plus facile, en autant que si on puisse utiliser ce mot-là en parlant du hockey de la Ligue nationale. Mmh. Je suis de moins en moins sûr de ça, qu'on peut utiliser le mot facile, parce qu'on voit que tous les matchs sont très, très compliqués à gagner, puis il y a toujours des équipes qu'on pense moins fortes qui viennent surprendre. Mais il en reste pas moins que sur papier, là, le Canadien affronte à domicile après leur visite à Pittsburgh demain, les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit au Centre Bell. Et après ça, tu as regardé le calendrier comme moi, Mario, c'est le départ, ce long voyage de 7 matchs à l'étranger.
Ça fait peur un peu quand tu regardes la cédule.
Ça fait peur, oui, tout à fait. Puis tu sais, des grosses équipes dans l'Ouest, c'est jamais facile pour le Canadien là-bas. Non. Alors, ça va être un défi immense. C'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de faire un maximum de points cette semaine. L'opération du mois de novembre, tu te souviens, qui avait été si bien amorcée, à partir du 15 novembre, après la victoire à Washington, la victoire surprise du Canadien à Washington contre les Capitals, le fameux match où Jonathan Drouin a été blessé. Depuis ce temps-là, ça a été passablement une déroute. Donc, le mois de novembre n'a pas permis aux Canadiens de réaliser ses objectifs. Là, il y a une possibilité cette semaine d'aller chercher des points importants avant un point de passage très difficile du calendrier qui va nous mener grosso modo vers la mi-saison. Alors les Canadiens doivent vraiment profiter cette semaine.
Oui, même que je leur souhaite un 5 points sur 6 parce qu'en bas de ça, ça fait juste compliquer davantage le portrait.
Tout à fait.
Philippe, c'est tout le temps qu'on a pour l'instant, mais merci d'avoir amorcé la semaine de cette façon-là.
Ça fait plaisir, Mario.
Comme d'habitude, et on se reparle bientôt.
Tout à fait. Bonne semaine.
Toi aussi. Ciao, ciao. Et après la pause, autour de Danny Dubé et Martin McGuire, un après l'autre. Pas les deux en même temps.